suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Il est 11h, passé de quelques instants sur votre radio. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 4 septembre 2024. Et bienvenue dans ce troisième numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Bienvenue alors au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega est à la mise en onde. Géraud Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Comme toujours, vous le savez très bien, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Aného, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Nous vous saluons d'une manière fraternelle, bien sûr, à travers tous nos réseaux de communication, bien sûr, sur lesquels vous nous suivez. Et il y a aussi des radios en ligne telles que Ibn Radio et Radio Les Bénins. Alors, comme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse alors de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi. Vous comprenez que l'équipe déjà de mercredi est en place. Il y a Tabouré. Ibrahima, bonjour.
Oui, bonjour, cher ami, et bonjour aux confrères ici présents. Bonjour à tous les éditeurs et auditrices qui nous écoutent de par le monde et au Togo également. Et si tu le permets, Pascal, oui, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des Ignam à tout le peuple Bassa, à tout le grand Bassa qui a commencé la fête des Ignam cette semaine et dont l'apothéose sera le samedi à Guérin-Coka.
Mais tu ne nous invites pas?
Non, vous êtes invité. Vous êtes invité d'ailleurs, Pascal, oui, à Normilco, on en a déjà discuté. Il y a la place pour tout le monde, pour tous les confrères qui sont ici, et pour tous ceux qui voudraient aller à cette fête. Vous savez que le Grand Bassar, comme je l'ai toujours dit, les gens vont estimer que j'en fais de trop, mais bon, c'est une fierté quand même de parler, de dire que quand on parle d'Ignam, les vrais Ignam, c'est le Grand Bassar. Et quand les moments-là arrivent, c'est une fierté qu'on se retrouve pour la fêter et pour la célébrer. Donc, c'est ça. Vous êtes invités, vous allez voir, peut-être pouvoir faire la différence entre les Ignam.
D'accord.
Parce que au Togo, il y a beaucoup de localités qui cultivent ces denrées, mais je crois que dès que vous serez là, comme je l'ai dit, vous allez quand même pouvoir faire la différence.
Je ne sais pas pourquoi, quand tu parles, Sylvestre a l'habitude alors de te regarder d'une manière bizarre.
Non, Sylvestre, bonjour. Sylvestre a déjà fait l'expérience de... Oui, il a déjà fait l'expérience et il sait ce que je dis.
Ah
il
bon?
Il ne pourra pas me démentir, peut-être c'est pour me taquiner, si dit le contraire.
D'accord. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va. C'est vrai, j'ai déjà fait l'expérience. Et je crois qu'au retour l'année dernière, il nous a fait quand même goûter l'igname donc de Bassa. Je crois que je suis même invité, donc j'y serai avec plaisir.
Justement, tu le dis bonnement, ça veut dire tout simplement que tu as vraiment fait l'expérience et tu as aimé l'expérience.
Voilà.
Je ne sais pas si Abbas Isaac a déjà fait l'expérience. Abbas, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Tu as déjà fait l'expérience?
Bon, il y a longtemps.
Ah, vous êtes un habitué.
Un habitué, donc c'est sympa. Juste parce que là, ça se fêtait. Puisque vous voyez la fête de l'Ignam à Bassar, dans le Grand Bassar. Des fois, ça se fait dans la ville de Bassar. Et maintenant, c'est devenu tournant. Cette année, je pense que c'est Guérin-Coka qui accueille l'apothéose. J'espère que les gens y seront. Bon, on va voir si on aura aussi les moyens pour y retourner voir ce qui se passe là-bas.
D'accord. J'espère que tu vas bien.
Ouais, on rend grâce.
On rend grâce, c'est l'essentiel. Alors, à Kbalimé, on a aussi des ignames, mais je ne sais pas si c'est comparable à ce qui est aussi à Guérin-Coka. Mais Gadiel Tonadier nous le dira. Gadiel, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
J'espère que tu vas bien.
Ça va.
Je ne sais pas, tu as déjà fait l'expérience alors de l'Ignam, alors du Grand Bassar.
Oui.
Tu l'as fait?
Oui, je connais bien
comparativement,
Bassar.
Comparativement à Palimé.
Je connais bien Bassar, oui. Je connais bien les Ignams de Bassar. je connais bien Palimé, et je connais bien aussi les ignames de Palimé, mais je pense que les ignames de Palimé sont meilleurs par rapport aux ignames de Massa.
Là, chacun prêche pour sa chapelle.
Non, je suis donc... Mais il faut avouer que c'est de bonnes ignames à Abassa.
Voilà.
Donc, le confrère a raison d'être fier de ce qu'on a à Abassa comme ignames. Donc, voilà.
D'accord. OK, nous allons commencer cette émission comme nous savons bien le faire avec chaque
mercredi. Pascal, si tu le permets, je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, je pense que l'effort qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que, parce que nous sommes en train de parler, c'est très important, que les dirigeants puissent nous écouter, de faire en sorte que nous puissions avoir les moyens pour conserver cette tubercule. Et l'autre l'a dit, ce n'est pas que le Grand Bassin. Pourquoi étendre cette culture sur tout un territoire et pouvoir avoir accès le moment venu? Mais il faut que les dirigeants aident ces producteurs-là à pouvoir les conserver. Pas que seulement les ignames, il y a autre chose. Nous en avons discuté ici.
Oui.
Comment conserver les tomates et autres. Donc, si les paysans peuvent avoir la possibilité de conserver ces tubercules, c'est dans les jours, ça va être très important. Et ça, c'est le travail des dirigeants.
Tout à fait. C'est le travail des dirigeants. Je pense qu'ils sont interpellés.
Ils sont interpellés vraiment. Parce que c'est très, très important. Il ne faut pas qu'il y ait rupture des ignames. Vous savez, ce n'est pas à Palmé seul ou à Bassar qu'on fait les ignames. Il y a les ignames à Tapamé, où on parle de Odontou.
Odontou, oui.
Ici, là-bas, donc.
À Badou également.
À Badou également, il y en a. Vous savez, au niveau de Atakwami, c'est les bouts des ignames de Bassar qui viennent planter là, à Atakwami. Et lorsque vous descendez, même rentrez à Moutien, il y a des femmes, un village là, qui fait les ignames là. C'est les bouts des ignames de Bassar. Moi, j'étais là à Gerinkouka, j'ai vu comment on conservait les bouts des ignames pour les repréparer. C'est-à-dire, on fait des sous forme de huttes et on les met dedans sous forme de grenier.
Et pour les conserver?
Pour les conserver. Et immédiatement, on met ça en terre le temps venu jusqu'à ce que les récoltes arrivent.
D'accord. Je pense, tel que Tchamouré l'a dit, les dirigeants sont interpellés.
Justement. Je crois que c'est un message important.
Oui.
Au niveau des paysans, je crois qu'ils ont déjà fait l'effort. Ils ont des groupements aujourd'hui.
Oui.
Donc, il faudrait
des coopératives.
Des coopératives et tout. Donc, il faudrait que l'État puisse être regardant.
Les accompagner.
Les accompagner pour que cela soit efficace. Quoi. Voilà.
D'accord. Alors, quand on parle de la nourriture, on parle aussi alors de la santé. Puisque quand il y a même d'ailleurs la nutrition qui constitue aussi un élément très important même d'ailleurs de la santé. Et donc, nous allons parler santé puisque nous sommes au mercredi et santé, éducation, et c'est bien le fait en évoquant certains des sujets de la santé à sa une et même d'ailleurs en traitant de ces sujets alors dans sa parution. Et donc, nous allons en parler ce matin. Mais Gadiel, d'abord, nous parlons alors de cet éditorial que vous avez écrit et vous l'avez titré « Un ministre de la Santé novateur ». Alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Bon, nous parlons de la succession qui a eu lieu au niveau du ministère de la Santé. Professeur Miji Yawa qui part. Et puis, un autre professeur Daré, qui revient, qui vient, je veux dire. Donc, ce n'est pas dans cet éditorial, nous ne faisons pas le bilan, en tout cas, en clair, du professeur Miji Yawa, mais nous nous posons un certain nombre de questions et puis un certain nombre de vœux tirés de la population. Quel genre de ministre de la Santé avons-nous besoin actuellement au niveau du système de santé? Vous savez, actuellement, les défis sont grands dans le système de santé. Quand on parle aujourd'hui des maladies infectieuses, on est encore dans la lutte. Aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires qui prennent la tête avec tout son corollaire de drames que nous connaissons dans les maisons, dans les hôpitaux. La réalité est là aujourd'hui. Dans tous les rapports, c'est dit que on meurt dans nos pays pour des causes évitables par l'information, par la communication. Alors, un ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, avec le projet de l'assurance maladie universelle, il faut communiquer en amont. Il faut informer la population.
Mais depuis toujours, on est resté sur notre soif par rapport à tout le système de communication d'information du ministère de la Santé. C'est un côté qu'il faut revoir parce que là, on ne sait même pas sur 10 combien on peut donner au ministère de la Santé en matière d'information santé. C'est très important. La santé préventive, l'information préventive, c'est absolument important. Ça couvre la grande partie même de ce qu'on peut appeler les actions de la santé publique, bien de la promotion de la santé. Donc, un ministre qui regarde ce côté, c'est absolument important. Parce que si on peut communiquer pour sauver des vies, pourquoi pas ne pas le faire? Et puis, il y a aussi ce côté du partenariat. Hein. On ne sait pas si le nouveau ministre va pouvoir amarrer toute l'énergie, que ce soit secteur public, privé, confessionnel, pour qu'on puisse vraiment revoir les fondamentaux de la santé autour de cela. Je ne sais pas quelle année le président de la République avait annoncé les états généraux de la santé, qu'on a reporté finalement, qu'on n'a pas encore fait jusqu'alors. Un souhait, voir si ce ministre peut ramener ce dossier. Alors, c'est vraiment important de revoir le système de santé, de balayer certaines choses et d'implanter de nouvelles choses pour que ce projet d'assurance maladie universelle soit mis en œuvre dans un environnement assez sain pour avoir de bons résultats.
Mmh. Alors, Gadiel, on comprend tout simplement que le nouveau ministre, professeur Daré, a beaucoup de défis à relever hein, par rapport même d'ailleurs au système sanitaire, à notre système sanitaire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever.
Absolument. Je pense que le monsieur en est conscient. Avec toute son équipe et tous les départements du ministère de la Santé, le défi est énorme, le défi est grand. Vous voyez. Donc aujourd'hui, si on parle par exemple de la santé de la mère de l'enfant, le taux de prévalence ce n'est pas vraiment encourageant. Si on parle de la prévalence de l'hypertension artérielle au Togo, on est dans la zone rouge. La prévalence du diabète, là où on est, c'est très mauvais. Le surpoids, l'obésité, on en parle tout le temps. C'est un gros défi. Et il faut commencer par faire quelque chose d'assez poignant pour renverser la tendance, comme on le dit, dans ce secteur.
Mmh. C'est vrai, Gadiel, vous l'avez dit tout de suite, que l'un des défis hein, auxquels la population même d'ailleurs est confrontée, c'est l'hypertension artérielle. Et vous avez, à la page 6 de votre journal, vous avez écrit un article là-dessus, vous écrivez « Hypertension artérielle, attention à ses aliments ». Quels sont ces aliments ?
Oui, nous revenons encore sur l'alimentation des hypertendus parce que c'est absolument important. Vous savez, c'est un aspect que beaucoup ignorent et ça rentre dans tout ce qu'on appelle l'information santé. Quand on vous a finalement testé que vous êtes un hypertendu, c'est tout un processus de prise de tension et quand le médecin traitant dit que, monsieur ou bien madame, vous êtes un hypertendu, il y a des interdits. Il y a des interdits alimentaires, s'il vous plaît. Faut pas que les gens ferment leur oreille sur leur maladie et fassent un certain nombre de choses, adoptent un certain nombre d'alimentation, mais ne changent pas du tout et qu'ils pensent qu'en prenant seulement des médicaments, ils vont avoir un résultat, ils vont avoir l'avancement de leur santé. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Alors, on va seulement donner un aspect. La consommation du sel. La consommation du sel.
Vous écrivez que c'est un ennemi pour la santé.
Oui, quand on le consomme en excès. Quand c'est consommé en excès, ça devient un ennemi. Un ennemi pi pour la santé. L'homme dit 5 grammes de sel par jour pour un individu. Donc, de 5 grammes. Et vous voyez ce que la manière dont on consomme le sel au Togo, la sauce a du sel, déjà ça fait déjà plus de 5 grammes. Et puis le riz a du sel, ça fait déjà plus de 5 grammes. Et ça, c'est un premier repas. Après, on a un autre repas, du sel, un troisième repas, du sel. Nous consommons trop du sel. Est-ce que vous voyez? Et quand c'est comme cela, l'hypertendu doit revoir sa consommation. Donc, c'est un aspect important. Sinon, quand vous êtes dans l'excès de la consommation du sel, vous faites du tort à vos vaisseaux sanguins. Or, l'épée tendue a déjà un problème de vaisseaux sanguins, est-ce que vous voyez? Donc, c'est absolument important de voir ce côté. Il y a d'autres aspects que nous invitons les uns les autres à lire sur, en tout cas sur, au niveau du journal numérique, bien du journal papier.
D'accord. Vous vous intéressez aussi à un autre sujet. Il s'agit alors du désir sexuel chez la femme. Vous écrivez « Désir sexuel chez la femme, recette ».
Oui, Pascal, le désir sexuel ne tombe pas seulement en panne chez les hommes. Hein. Les femmes aussi ont ce problème, très souvent d'ailleurs. On n'en parle pas tout le temps parce que dans beaucoup de ménages, la femme, elle se soumet. Elle n'a pas le désir, mais elle se soumet quand même aux activités sexuelles avec son mari. Mais elle n'a pas le désir pour un certain nombre de causes. Ça peut être des maladies, ça peut être un médicament, ça peut être des soucis.
Du stress.
Du stress, voilà, pour les professionnels. Vous savez, ce n'est pas un secret, il y a des études qui l'ont prouvé que les femmes professionnelles, elles ne sont pas très sexuelles. Est-ce que vous voyez? Elles ne sont pas très sexuelles parce que la tâche du boulot leur fout tout un stress, ce qui fait que ce désir est le premier à être coupé chez la plupart de ces femmes. Donc, arriver à la maison, c'est des problèmes. Elle dit, elle est fatiguée, elle pense plus au travail, parce que c'est ça qui lui prend la tête. Et ça devient des problèmes dans le ménage, parce que si le monsieur, lui, il a envie, donc vous voyez quoi. Donc là, dans cet article, nous faisons le tour de ce problème et nous proposons un certain nombre de recettes avec l'appui d'un certain nombre de spécialistes. Maintenant, il y a aussi un article en bas de cet article qui propose les recettes pour les hommes.
La virilité surtout chez les hommes.
La virilité, voilà, c'est ça le titre. La virilité chez les hommes. Donc cette page, c'est pour le couple marié bien sûr, auquel nous écrivons. En dehors du couple marié, ces articles ne fonctionnent pas. Les recettes ne fonctionnent pas.
Ah, mais on ne peut pas cacher quand même ces articles à d'autres personnes qui ne sont pas des couples mariés. Là.
En tout cas, ce n'est pas caché, mais la pratique est mieux dans les couples mariés. Et pour les hommes aussi, quelles sont les recettes pour ceux qui sont des professionnels comme nous, qui le stress par-ci, l'angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la virilité pour la sexualité dans le couple? C'est absolument important pour l'épanouissement et surtout pour la santé. N'ignorons pas ce côté, la sexualité dans le couple, c'est aussi pour la santé.
Ah oui, c'est aussi pour la santé. C'est pourquoi même d'ailleurs on parle de la santé sexuelle, bien sûr, au niveau même d'ailleurs du couple et au niveau des jeunes aussi, bien sûr. Et oui, mais Gazelle, vous vous intéressez aussi à un autre article, c'est vrai, cette maladie qui fait tellement de ravages maintenant en Afrique centrale. Je veux bien parler alors de la variole du singe ou Mpox. Et vous écrivez un article là-dessus et vous écrivez variole du singe ou Mpox, signe, et prévention.
Oui, l'OMS a lancé l'alerte internationale par rapport à cette maladie virale, bien sûr, la variole du singe. Et quand vous voyez les photos, personne n'aimerait avoir cette maladie.
Tout à fait. Les images, sincèrement,
c'est horrible. C'est horrible. Avec toutes les solutions cutanées, C'est assez terrible, donc c'est à prendre au sérieux et je pense que le Togo est déjà dans l'alerte au niveau de son système épidémiologique. Bon, maintenant, il faut que on comprenne, comme vous venez de le dire, il y a des pays qui sont déjà dans cette épidémie-là.
Tout à fait.
À côté, il y a le Niger. Vous savez que c'est un pays où tout le monde va et tout le monde revient. Donc, attention, faisons extrêmement attention, c'est à nos portes. Et nous devons faire extrêmement attention. Dans la population, on doit connaître les signes. Ce ne sont pas des signes bizarres, hein. C'est des signes qui sont analogues à toutes ces maladies virales. Le mal de tête, la fièvre, les courbatures, vous voyez, l'insomnie. Et ça commence comme ça. Et c'est sûr pourquoi, en période de pandémie, d'épidémie, quand on a ce genre de symptômes, il faut aller consulter. Parce que ça peut être les débuts. Et bon, on pouvait arriver à un stade où vous faites trop la maladie et la prise en charge peut être un problème. Mais ce qui est encourageant aujourd'hui, c'est que il y a des vaccins. Vous savez, il y avait une pandémie en 2022 dans un certain nombre de pays occidentaux, c'est le vaccin qui a aidé à éradiquer cette pandémie. Donc, selon les dernières informations, le vaccin va atterrir en RDC au Nigeria pour des essais, donc pour la vaccination. Mais nous, ici, nous devons adopter les mesures préventives. C'est les contacts directs avec la personne infectée qui amène la maladie. Donc, le lavage des mains, au moins, on peut dire ça aujourd'hui, le lavage des mains. Quand nous circulons, nous allons, nous revenons, nous prenons les poignées des portes et tout, nous saluons. Quand nous arrivons chez nous, lavons les mains proprement avec du savon avant de rentrer dans notre environnement.
On sait que c'est au temps de Covid que le lavage des mains a pris tellement d'importance. Après Covid, alors finalement, nous sommes rentrés dans notre habitude hein, qui n'est plus alors de, enfin, qui est de ne pas alors laver les mains. Et on continue comme cela.
C'est une erreur. C'est une erreur. Normalement, le lavage des mains, c'est pour tous les jours.
C'est pour tous les jours.
C'est pas seulement.
Il y a même une journée internationale de lavage de mains.
Absolument. Donc, c'est une erreur. On doit laver les mains tout le temps. Quand on sort, on revient, nous, en tant que journaliste, nous allons et nous revenons. Vous devez laver les mains, vous arrivez au bureau, vous lavez les mains avant de rentrer dans votre bureau. Sinon, vous allez contaminer tout votre bureau avec certains germes. Et si c'est des virus, vous êtes atteint.
Voilà. Je sais que quand on parlait alors du désir sexuel chez la femme, les recettes surtout, il y a Sylvestre qui voudrait vous poser une question, mais il y a... Ou je ne sais pas, Sylvestre.
Oui. En fait, c'est une question. D'abord, je fais observer que le sexe, d'abord, c'est dans la tête. Hein. Le sexe, c'est avant tout psychologique. Lorsque vous avez des soucis... normal que vous n'ayez pas l'envie. Il y a en fait un terme qu'on utilise beaucoup plus chez les femmes, on parle de la frigidité. Oui, donc je voudrais savoir si les recettes là, que vous proposez aujourd'hui un bon remède pour ceux qui ont... je ne sais pas si c'est une pathologie, je ne sais pas, vous allez nous le dire tout à l'heure, mais on parle souvent de frigidité pour les femmes qui n'ont pas souvent l'envie sexuelle, ces plaisirs sexuels, même si ces femmes-là ont quotidiennement des rapports, n'ont pas l'envie et tout ça. Donc, si vous pouvez peut-être nous...
Est-ce que c'est une pathologie ou un dysfonctionnement?
Bon, c'est, vous savez, c'est un phénomène assez complexe. Peut-être on peut revenir là-dessus.
Oui, tout à fait.
On peut revenir là-dessus. Mais dans cet article, la recette principale a trait à la frigidité chez la femme. Donc... la recette, elle est là. Ces femmes qui se sentent frigides. Alors, on peut revenir sur le phénomène parce qu'il y a plusieurs causes hein, et qui fait que la plupart du temps, les femmes, puisque c'est cette sensation qui n'est pas là. Donc, si la sensation n'est pas là, on n'a pas le désir et voilà. Ça fait que ça fait un certain nombre de problèmes dans les couples.
D'accord. Gazelle, merci d'être passé dans cette émission. Merci votre beaucoup. Journal, c'est dans les kiosques, en papier et aussi en PDF. Et, c'est à quel prix pour aussi avoir les parutions? C'est quoi les conditions?
Le journal papier, c'est à 1000 francs, dans les kiosques et en pharmacie. Et puis, le journal numérique, à télécharger sur notre site internet www.santé-education.tg. À 500 francs.
D'accord. Merci, Gadiel, d'être passé. Ça fait toujours plaisir hein, d'être avec vous hein, pour chaque mercredi pour parler de la santé, puisque, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Alors, chers confrères, nous revenons en studio alors pour nos débats. On commence ce débat hein, d'aujourd'hui avec cette information que nous avons eue dans la soirée d'hier. Je veux bien parler alors de cet incendie hein, qui a ravagé le marché de Kégué hier dans la soirée. Et c'est vrai que après tout, il y a des sapeurs-pompiers qui étaient venus sur les lieux pour maîtriser le feu. Tchabouré, finalement, est-ce que il n'y a pas assez d'incendies maintenant dans notre pays?
On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, Pascal. Je crois que ce n'est pas le premier, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et je crois que l'avant-dernier, ça doit être celui d'Agoy.
Tout à fait,
Agoy Acier, que nous avons déploré. Et hier, malheureusement, c'est au niveau de Kégué. Franchement, je voudrais, avec votre permission, passer par micro pour témoigner toutes nos compassions aux commerçants et aux commerçantes. Hein, parce que ce n'est pas facile, vous voyez, ça cadre. Au moment de la rentrée scolaire, avec toutes ces difficultés, les bonnes femmes et les bons messieurs vont pour chercher de quoi pouvoir joindre les deux bouts et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec rien. Donc, mais ce qu'il faut saluer, il faut également saluer, nous avons appris, il faut saluer la promptitude quand même des sapeurs-pompiers, oui, et la réaction du gouvernement, avec trois membres du gouvernement qui se sont déplacés sur le terrain. Aussi, c'est l'occasion, hein, nous allons toujours continuer par le dire, d'attirer l'attention de nos commerçants. C'est vrai que les premières enquêtes, et les résultats des premières enquêtes font croire que c'est un court-circuit. En tout cas, on s'en tient à ça en attendant que d'autres informations...
Mais vous vous souvenez qu'au niveau du marché d'Agoué,
ça a été également le cas. Mais quand vous circulez dans ces marchés, vous allez comprendre quand même le problème qui existe. Si c'est vraiment les courts-circuits, vous allez comprendre comment les gens sont installés. Et vous allez comprendre que facilement, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous êtes encore allé actuellement au marché d'Agoué-Assié pour voir la partie qui est brûlée. Quand vous allez tout le long de la bretelle qui vient d'Agoué, la nationale numéro 1, vous ne pouvez pas trouver de chemin. Vous ne pouvez pas vous frayer de chemin. Les gens sont installés de telle manière que, bon, on dirait des choses. Donc, je crois que c'est l'occasion également d'attirer l'attention de nos commerçants, de nos mamans, de nos commerçants qui s'installent par rapport aux installations électriques, de faire extrêmement attention. Regardez ce qui est arrivé en un rien du temps. Hein, toute une souffrance est tombée à l'eau. Ce n'est pas bien, mais nous continuons quand même par apporter toute notre compassion, ce qu'on peut faire, et espérer que les enquêtes vont diligenter quelque chose de bon, et penser également que le gouvernement puisse faire quelque chose pour soutenir ceux-là qui sont dans la détresse en ce moment, parce que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile, et je vous dis, je suis en train de voir comment ceux-là qui ont vu les ballots et autres là partir en fumée, comment, quelle va être leur attitude, leur état d'âme. Franchement, et encore une fois, toutes nos compassions, et que le gouvernement puisse voir s'il y a lieu de faire quelque chose, qu'on puisse quand même leur apporter tout le soutien nécessaire.
Sylvestre, on est à pratiquement moins de deux semaines de la rentrée scolaire, et avec cet incendie au niveau de Kégué, ça doit être vraiment un coup très dur pour les femmes et les hommes commerçants là-bas.
Oui, un coup vraiment dur, puisque ce matin, avant donc de rentrer dans mes cours, je suis allé sur les lieux pour voir un peu ce qu'il en est. C'est vrai que la zone est bouclée par la gendarmerie. Il y a, je remarque que la police scientifique est en train donc de faire son travail. Puis on n'a pas permis, du moins aux commerçants, d'avoir accès. Donc, et sur le trottoir, le long du trottoir, c'est là où beaucoup ont installé leurs marchandises, les tomates, les légumes, les produits ouvriers, tout. J'ai vu des visages graves là, franchement. Elles se sont presque agroupées et tout. Vraiment, c'est triste. Il y a un monsieur, c'est dans son véhicule, je crois qu'il est revenu avec des oranges, et les oranges sont encore dans le véhicule, et c'est de là qu'il peut venir faire l'opération. C'est triste, quoi. C'est triste de voir ces visages-là, de ces dames-là. Vous savez, les commerçants, il y a bon nombre assurent donc le collage de leurs petits-enfants. Très souvent, lorsqu'on connaît un peu le pays, la manière dont les choses se passent, et ceux-là, il faudrait, encore une fois, l'État, c'est toujours l'État, quoi, de voir ce genre de situation, qu'on puisse les aider au moins à assurer une bonne rentrée, donc, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. À ces dames-là, il faudrait qu'on puisse se parer au plus pressé pour qu'elles puissent regagner le marché et commencer donc à faire les activités. Parce que là aussi, c'est vrai, je touche du bois, la manière dont j'ai vu ces dames-là qui ont occupé presque le trottoir, qui déborde presque vers la chaussée, on ne le souhaite pas. Si demain il y a un véhicule qui déraille, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc vivement qu'on puisse accélérer les choses afin qu'elles puissent regagner l'intérieur donc du marché, et pour ceux qui ont encore quelques marchandises, les écouler pour avoir pour en avoir, parce que généralement c'est ça, elles vont vendre, aller redonner l'argent avant, donc ça se passe généralement ainsi. Donc vivement qu'on puisse leur apporter, que la police puisse, voilà, la gendarmerie, en fait c'est la gendarmerie que j'ai vu autour, avec leurs véhicules aussi garés et tout ça. Donc il y a un bandeau jaune là, le cordon jaune là, qu'ils ont mis tout autour du marché pour ne pas permettre que les gens puissent avoir accès, parce que si la police scientifique va travailler, il ne faudrait pas qu'on puisse, quelques indices puissent être peut-être altérés et tout. Donc voilà un peu ce qu'il en est de ce matin que j'ai vu. Vraiment, j'ai pas duré, mais bon, oui. Quand tu vois les visages, je crois que tu peux pas durer.
Ça, ça c'est clair, voilà. Ça c'est clair. Mmh. Avec les visages, on ne peut vraiment pas durer alors sur place. Alors, Abbas, c'est vrai que alerté hein, aux environs de 20h44, les sapeurs-pompiers se sont déployés alors sur les lieux 5 minutes hein, après. Et au bout d'une dizaine alors de minutes, le feu a été maîtrisé et complètement éteint aux environs de 21h30. Alors, déjà, on doit apprécier cette pompe. Alors des sapeurs-pompiers.
Oui, c'est cette promptitude qu'il faut saluer parce que si ça avait été le cas au niveau du marché d'Agoyasiye, l'ampleur des dégâts ne serait pas comme ce qu'on a connu. Vous savez que ici, on parle de 600 mètres carrés qui a été attaqué avec des hangars, c'est un marché de légumes, les céréales et autres qui ont brûlé, qui ont pris feu. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Le problème de ces femmes-là, de ces commerçants, commerçantes qui ont perdu beaucoup de choses. C'est triste à la rentrée, comme ça. Déjà, on fait certainement des prêts pour venir s'installer là-bas. Et vous savez, le problème de ces prêts avec les microfinances, lorsque vous n'arrivez pas à rembourser, c'est que vous êtes persécuté même par ces microfinances. J'espère que le gouvernement, comme il y a trois ministres qui ont été sur les lieux pour vérifier, voir l'ampleur des dégâts de ce qui s'est passé et voir comment la situation s'est passée, au moins on prendra des dispositions, des mesures pour que ces femmes-là puissent. On l'a eu à le faire avec le marché d'Agoyenbe, les commerçants d'Agoyenbe, que le gouvernement puisse, dans les brefs délais, faire quelque chose pour ces femmes. Ces familles, puisque les gens ont déjà commencé par préparer la rentrée avec les fournitures scolaires, il y a aussi les inscriptions à faire pour des enfants, et tout ceci-là, c'est un stress énorme qui les envahit. Donc, que le gouvernement fasse tout pour que au moins ces femmes puissent se mettre dans l'ordre, dans l'idée que nous allons plutôt pouvoir envoyer nos enfants et que les gens, les microfinances ne vont pas nous harceler. Et aujourd'hui, on doit nous dire, il faut que l'enquête puisse nous situer exactement, parce que
quand vous savoir exactement ce qui s'est passé.
C'est quand vous prenez ces marchés qui brûlent, c'est souvent dans la nuit. Pourquoi c'est dans la nuit que ça se passe? Très souvent, c'est la nuit. Ce marché, lui, il a commencé à 20h et quelques. Heureusement pour ça, et que les gens ont pu venir intervenir très rapidement. Quand vous prenez les autres marchés à Guayasi, c'était 23h et quelques.
Oui.
Et à Sigam en 2012.
Et là, pratiquement, les gens sont déjà partis.
Les gens sont déjà partis. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai vu les images hier ou sur les vidéos où une femme criait que venait nous sauver parce que le marché a pris feu. Le marché a pris feu et tout ce qui est là-bas a été brûlé. Donc, aujourd'hui, nous appelons l'indigent du gouvernement et que le procureur ouvre une enquête qui aboutissent à quelque chose pour qu'on puisse éviter ce genre de situation à tout moment. Et que pourquoi c'est souvent la nuit que les choses se passent.
Et justement, oui. ça interpelle. Comment se fait-il que c'est souvent la nuit? Est-ce que c'est un acte criminel? Et est-ce que c'est... Enfin, c'est des questions que nous nous posons. C'est vrai que pour ce qui concerne le bilan provisoire, on parle de 6 petits hangars brûlés, ainsi que alors des produits vivriers tels que les céréales, farine et légumes qui sont également brûlés. Alors, Sylvestre...
Moi, je crois que nous devons également donc... ça va utiliser les termes. Quand on me dit si petit hangar, pourquoi on met petit? Peut-être que la personne avant de le faire, pour lui, c'est déjà quelque chose donc, de grand vu, ce que cela apporte donc, à la personne.
Je suis en train de
oui, je sais que c'est ce qu'ils ont dit petit. Oui. Non, si
mais
petit
pour
hangar.
La personne la concernée, ce voilà, serait jamais petit.
Ce serait jamais petit. Du fait donc ce que ça rapporte pour lui,
tout à bon. Fait.
Peut-être qu'il a même grouillé pour la
voix.
Il a même grouillé pour la voix. Maintenant, je crois que les marchés en soi et l'heure des incendies, ça doit véritablement nous interpeller. J'ai envie de dire que c'est presque aux mêmes heures. C'est-à-dire entre 20h30 et 21h. Parce que lorsque vous prenez les incendies que nous avons enregistrés ces derniers temps, c'est presque les mêmes heures. C'est vrai que nous ne voulons pas faire du charlatanisme, mais... Hein, le fait que cela devient répétitif doit véritablement nous interpeller. Et là, oui, ça peut être aussi d'origine criminelle. C'est possible.
parce qu'on ne doit pas éviter, on ne doit pas éviter toutes les pistes. Ça peut être parce que le marché de Hancock récemment, c'est presque aux mêmes heures.
Tout à fait.
Pourquoi est-ce que c'est entre 20 et 21 heures? C'est une question que nous nous posons. Donc, il faudrait véritablement que l'enquête puisse nous situer. Mais bon, je trouve parfois aussi trop facile. On dit, bon, court-circuit. Qu'on aille véritablement au fond pour nous dire quelque chose.
Mais justement, Tchabore, voilà. Il faudrait quand même qu'on aille au fond pour savoir exactement ce qui s'est passé ou ce qui se passe alors dans ces marchés pour que nous prenions des dispositions.
Oui, je crois qu'on ne le dira jamais assez. N'importe où et n'importe quand, où des incendies sont survenus, on a toujours dit de prendre les dispositions. Et on continuera toujours pas le dire. Par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs aspects. Par rapport à l'heure en question, vous devrez comprendre que déjà à partir de 19h-20h, la plupart de ceux-là, des commerçants et des commerçantes, ils vident le marché. Et quand ils vident le marché, certains ramassent tout, ils les entassent, et vous allez voir, certains le font dans la précipitation, et tout peut arriver à ce moment. Tout peut arriver à ce moment, vous partez, vous avez oublié, soit débranché quelque chose, vous avez oublié un petit aspect, peut occasionner ça. Ça, c'est le premier point que je voudrais relever. Et là, quand tout le monde est parti, c'est dans la nuit, vous avez vu, c'est par rapport à l'heure que je l'ai dit. Maintenant, il y a aussi l'aspect criminel qu'il ne faut pas occulter. C'est très important parce que la plupart du temps, les criminels, dans la journée, ils ne peuvent pas s'aventurer. Ils viennent au moment où tout le monde n'est pas, il n'y a personne dans le marché. Ça, c'est une piste encore à scruter sérieusement. Parce que, comme vous l'avez dit, comme les confrères l'ont dit, c'est à la même heure que ces genres de trucs interviennent. Pourquoi? Nous avons déjà eu des précédents. Est-ce qu'il ne faille pas voir s'il y a lieu de renforcer un système de sécurité dans ces différents marchés? C'est possible. Donc, voilà les pistes qu'il faudrait scruter. C'est vrai. Le confrère a dit, on ne peut pas faire du charlatanisme. Pour le moment, on ne va pas aller vite en besoin parce qu'on n'a pas les résultats des enquêtes. On attend voir qu'est-ce qui va sortir. Mais je dis qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Que ce soit du côté de l'heure, comme je viens de l'expliquer, que du côté de l'aspect criminel. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche.
Oui. On peut même en citer le marché donc de Dadao Lato. Hein, le grand marché, c'est pratiquement les 16 heures là, 21 heures. Le marché de Kara, même heure. Le marché à Hanukop, même heure. Le marché de Agoye, même heure. Le marché donc de Kégué. Là, ça devient récurrent. Il faudrait véritablement qu'on puisse aller au-delà de cette rhétorique de court-circuit là et de voir si on n'a pas peut-être une origine criminelle derrière tout ça.
Il faut qu'on arrête l'histoire des courts-circuits en attendant. À ce court-circuit-là, ça voile certaines situations.
Mais est-ce que c'est parce que l'enquête a révélé?
L'enquête a révélé quoi? On sait qu'il y a les installations qui sont mal faites dans les marchés-là. Les gens utilisent les toiles d'araignée et tout ça, là, ils viennent brancher n'importe comment, sans contrôle. On prend des électriciens, n'importe comment, ils viennent et ils branchent. Ça, on sait qu'il y a ça souvent. Parce que moi, j'ai dit qu'en principe, pour éviter ce genre de situation et répétition, quand on parle de court-circuit, il faudrait qu'on vérifie les installations dans ces marchés. Que la société prenne le soin d'aller vérifier les installations dans ces marchés. Comment ça se passe quand on a fait un marché? Parce que je sais que le marché de Kégué là, il y a des nouveaux trucs qui ont été, des nouveaux hangars qui ont été construits il n'y a pas longtemps. Et les gens sont venus se greffer tout autour. Et les installations pour brancher les congélateurs et autres, pour vendre les poissons frais. Et
les
autres,
produits congelés.
Les produits congelés. Les gens appellent des petits électriciens qui viennent faire le travail à moindre coût. Et ça, si c'est ça,
on nous parle. À l'insu de la sécurité.
À l'insu, si c'est ça, on nous parle. Du coup, sur qui il faudrait qu'on aille en profondeur et vérifier ce qui se passe exactement par rapport à ces branchements. Parce que ces branchements sont très dangereux pour la population. Même les branchements araignées que nous voyons dans nos banlieues, c'est des branchements très dangereux aussi pour la vie des populations. Donc il faudrait qu'on puisse mettre en place un comité pour suivre l'installation de ces
ces installations électriques pour que ce ne soit pas des installations sauvages.
D'accord.
Et qu'on puisse les...
Pourquoi pas dans la même ville, pourquoi ne pas avoir un électricien attitré,
attitré
qui est là, et avant de toute installation d'une tierce personne, il faudrait que ce soit lui qui donne son aval ou qui supervise l'installation. Je crois que si on arrive à harmoniser les choses de cette manière-là, au moins sur la question du coût circuit, on peut...
Je parlais de l'aspect sécurité également, c'est ça, ça englobe tout. L'aspect sécurité, ça englobe tout. Je pense que la société doit faire un travail. Je crois, nous sommes en train de parler en ce moment, j'espère qu'il nous écoute. J'espère que le ministre également de l'énergie nous écoute. Ensemble, faire un travail sérieux pour que ce ne soit pas dans un seul marché, dans presque tous les marchés, qu'un système de sécurité soit mis en place et des vérifications soit faite pour voir qui sont ceux qui sont venus profiter du branchement et des installations de la société. Quel danger cela procure? S'il y avait, je pense que ce que nous sommes en train de dire, si éventuellement ça vient des petits de ces branchements, on peut quand même les éviter. Donc ce sont des pistes que nous sommes en train d'avancer.
D'accord, merci beaucoup. Nous parlions entre-temps alors de la rentrée scolaire, puisque nous disons même d'ailleurs que c'est un coup dur pour les pains. Ces gens-là qui ont vu leurs marchandises brûler dans le marché alors de... Boss, vous vous intéressez à la rentrée scolaire 2024-2025, et vous dites que qu'il y a quatre informations que les parents d'élèves doivent savoir.
Oui, parce que nous sommes à quelques... semaine même de la rentrée, je pense, c'est deux. Donc, aujourd'hui, il y a le ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, M. Kokoroko, et ses collègues, ses collaborateurs ont pris des initiatives pour rassurer les parents et leur informer sur certaines situations. Et la première, c'est que les parents doivent savoir que il y a la rentrée est fixée précisément au 16, la rentrée académique, c'est le 16 septembre prochain.
Puisqu'il y a bien avant
puisqu'il y a deux rentrées. Donc, justement, la première rentrée, c'est le pédagogue, c'est le 8.
Le 9 plutôt.
Oui. Et la suite, c'est que les parents se mettent ça dans la tête pour dire que non, qu'on a annoncé seulement le 16, mais ça ne va pas tenir. Il faut se préparer en conséquence.
Non, mais je pense que nous avons reçu même le ministre des enseignants primaires et secondaires ici, qui nous a rassuré que le 16, ce serait la rentrée, et le 9 déjà, ce serait la rentrée.
Mais il a ajouté, à moins que les hautes autorités...
Tout à fait.
Il faudrait que les gens se mettent dans la tête que c'est le 16. Il faut pas être...
Et commencez pas à préparer cette rentrée.
Commencez pas à préparer. Donc, la deuxième information... C'est le... de informer qu'il y a... il y aura 3 millions d'élèves qui vont prendre le chemin des écoles, des classes, sur toute l'étendue du territoire. Donc, la troisième, c'est ce qu'on appelle la classe de soutien. La classe de soutien pour ceux-là qui en aura besoin. Et en même temps, les cours par correspondance pour pallier le manque des enseignants. Donc, c'est la nouveauté même de cette rentrée qui a été faite. C'est sa première nouveauté. Et maintenant, c'est la liste des fournitures scolaires que nous avons publiée par classe. Et donc, ce sont les quatre informations que le ministère a données pour qu'on prépare la rentrée et éviter qu'on soit surpris. Et maintenant, impliquer les parents doivent expliquer aussi dans l'éducation de leurs enfants. Quand l'enfant va à l'école, il ne faut pas dire que tu as payé le collège, c'est fini, et que l'enfant revient, tu ne lui poses pas des questions par rapport à ce que vous avez fait à l'école. Demande-lui ce que vous avez fait, est-ce que les choses sont bien déroulées, que de te taire et de regarder l'enfant continuer. Ça, c'est pour éviter certaines choses et faire de telle sorte que les parents ne puissent pas tous s'accrocher à leur portable s'ils en ont. Donc, c'est pour éviter les échecs, les résultats catastrophiques de l'année dernière, que tout cela a été communiqué.
Tout à fait. Alors, oui, Tchabouré, c'est vrai que le ministre a évoqué cela le jeudi passé, quand nous l'avons reçu dans l'émission Club de la Presse ici. Et c'est vrai, parlant même d'ailleurs de cette question de responsabilité des parents, le ministre a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les parents ont démissionné.
Non, c'est vrai. Je crois que le ministre a raison d'insister et de dire que les parents ont démissionné. Nous avons vu les résultats de l'année dernière. On a vu ce que cela a donné. C'était pas quand même de bons résultats que nous avons eus sur toute l'étendue du territoire par rapport à certains examens et même dans les classes de passage, lorsque vous scrutez, vous allez voir que franchement les résultats de l'année dernière n'étaient pas au rendez-vous. Et le ministre a raison d'interpeller les parents d'élèves. Les parents ont démissionné, ça c'est vrai. Et il y a un autre phénomène, peut-être qu'on en reviendra là-dessus, je ne sais pas si vous avez eu à parler, sur les phénomènes de l'utilisation des smartphones dans les classes. Je pense que j'ai lu quelque part où il semble que le ministre prévoit interdire TikTok, je ne sais pas si l'information...
Non, il avait dit, qu'il y a des mesures qui seront prises.
Mais moi, je dis qu'il faudrait quand même apprécier ce ministère ces dernières années par rapport à un certain nombre de réformes qui ont été prises. Ça, donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. C'est vrai, il y a certaines réformes qu'on peut cliquer. J'ai vu certains qui disent déjà par rapport à l'introduction de ces vacances de détente ou bien ces congés de détente, c'est qu'on jugeait que ce n'était pas une bonne chose. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais je pense que les réformes apportées par ce ministère ces années, quand même, on peut les saluer, sont à saluer. Parce que déjà bien avant la rentrée, il y a des annonces qui se font. On attire l'attention des parents d'élèves, on attire l'attention des élèves et on met en place un certain nombre d'activités, de mouvements pour pouvoir mettre à l'aise tout le monde pour que la rentrée se fasse aisément. Ça, c'est une bonne chose. Par rapport au fait que les parents, certains parents, se plaisent à dire que non, le ministre a parlé seulement, il ne va pas la rentrée. Au fait, la plupart d'entre vous ne savez pas, c'est la crise. C'est les moyens, par manque de moyens, qu'on essaie de se consoler à travers ces petites phrases. Mais franchement, que tout le monde sache que ce que le ministre dit, c'est l'autorité. Ce que le ministre dit, c'est ça. Il faut s'en tenir à cela et se préparer en conséquence. Donc, encore une fois, franchement, le ministre Koutoukou, il a bien un bon travail. Je ne veux pas faire de jaloux. Mais il faut dire que nous, parents d'élèves, nous avons démissionné. Et il faudrait revoir ça. C'est pourquoi, sur un plateau, moi, j'avais proposé. Et pourquoi ne pas revoir par rapport à cette rentrée ou bien cette année, revoir, faire une assise entre les responsables des associations des parents d'élèves, les enseignants, le ministère, faire des assises pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'utilisation des smartphones. Le sérieux problème, c'est l'utilisation des smartphones dans les classes. Et nous avons vu comment les élèves les utilisent et ce qu'ils font avec.
Surtout avec les réseaux sociaux.
Avec les réseaux sociaux. Je crois que si nous ne prenons garde, les années à venir risquent encore d'aller de mal en pis. Donc je pense que le ministre a bien fait d'attirer notre attention, mais également c'est de la responsabilité aussi des dirigeants, et je parle du gouvernement, de faire en sorte qu'on puisse voir s'il y a possibilité de faire des assises dans ce sens et de prendre des dispositions dans ce sens également.
D'accord. Sylvestre, oui, par rapport surtout à la démission alors des parents aujourd'hui, est-ce que déjà on est conscient même d'ailleurs de cette démission?
Non, écoutez, oui, pour certains parents, oui, parce que tu sors tôt le matin, tu viens, tu ne vérifies même pas si même tes enfants sont en chambre et tout ça. Je crois, oui, il y a certains parents qui ont démissionné. Et surtout, en ce qui concerne donc les élèves, certains parents ne connaissent même pas l'établissement de leurs élèves ni la classe. Oui, non, c'est maman, peut-être que c'est maman qui fait tout, c'est peut-être le gentil garçon qui aide papa qui va même payer les écolages. Oui, il y a ces cas-là, il y a ces cas qui sont rares, mais qui sont également dans la société. Je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut interpeller également certains parents, parce que je crois qu'il faut une conscience collective pour que au moins cette année on puisse avoir des résultats différents de ce que nous avions eu l'année dernière. Et c'est en ce sens que le ministre a rappelé la dernière fois que oui, eux ils sont le cadre de l'enseignement, donc l'éducation revient aux parents donc de le faire. Mais je crois que dans ce pays aussi nous avions eu le ministère de l'enseignement et de l'éducation. Nous l'avions eu au temps du général Yadema. C'était le nom de ce portefeuille. L'éducation, le ministère de l'éducation scolaire. C'était véritablement l'appellation à l'époque. Mais aujourd'hui, on devient un peu récitif en parlant donc de l'enseignement scolaire.
Alors, c'est le ministère de l'éducation.
national, voilà. Ministère de l'éducation nationale.
Mais on a autant de forts aujourd'hui.
Maintenant, on a autant de forts. Je n'ai plus autant de... Il y a des voix. Donc, on a maintenant l'enseignement primaire et tout ce qui va avec la nouvelle formulation.
Sur ce point, est-ce que le ministre n'a pas raison quand il disait que, en fait, l'éducation aujourd'hui, plutôt des parents, et que les parents doivent jouer leur responsabilité.
Le ministre a pleinement raison. Hein, parce que lorsque tu débourses, tu paies l'école. C'est pas le ministre qui te paie l'écolage, en fait. Surtout pour ceux qui sont dans les instituts privés où l'écolage même envoisine 300 000, 400 000. C'est toi qui débourses, c'est toi qui le sors. Donc, si tu as échec, bon, voilà, quoi, tu vas continuer encore à payer le double pour la même année ou moins la même classe pour ton enfant. Donc, il faudrait véritablement que les parents puissent assurer également cette éducation. Mais, il y a aussi des enfants... Et c'est pas qu'ils sont tellement ambigus à la maison, le gars, c'est-à-dire que c'est le plus gentil garçon ou la plus gentille fille qui est à la maison qui fait tout. Mais une fois franchi les portes de la maison, vous voyez donc en rue, mais elle devient méconnaissante, elle se métamorphose complètement. Vous voyez, il y a également ce type donc de jeunes que nous avons aujourd'hui, hein, et à l'école, elle peut même quitter la maison en uniforme, mais une fois dans la rue, elle enlève le rouet, tout ça, là, elle se métamorphose. Tout ça, là, oui, on peut le mettre également sous l'éducation, mais il y a également ces gens, donc, de garçons et de filles que nous avons. C'est pourquoi, peut-être que beaucoup ne vont pas aimer ce que je vais dire. Non. Oui, je veux véritablement que le bâton et la carotte puissent revenir. Moi, j'insiste là-dessus, que le bâton et la carotte puissent revenir. Je n'ai jamais vu, c'est vrai que je ne veux pas dire notre époque, parce que c'est encore récent, mais je ne veux pas dire que je n'ai jamais vu à cette époque-là certains parmi nous se permettre donc de faire le motif en dansant, en se filmant les parties intimes et tout ça. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu donc d'autres s'accoupler tout ça en classe et tout. Je n'ai jamais vu ça parce que à l'époque on dressait, c'est-à-dire tu fais le mal donc on te tape bien
sous le mât devant tout le monde.
On te fesse de revue au-dessus du public comme ça pour décourager celui qui va faire comme toi. Mais aujourd'hui on dit non, il faut plus taper les enfants, droit de l'homme et tout ça là. Voilà ce que ça donne.
D'accord. OK. C'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de l'incivisme, nous parlons de manque de patriotisme et tout. Nous avons posé la question justement au ministre la fois passée par rapport même d'ailleurs au curcula ou du moins au module à mettre alors dans l'éducation, mais c'est là où il est revenu plus alors sur la responsabilité des parents, parce que au-delà de tout, c'est les parents qui doivent aussi inculquer un certain nombre de valeurs à leurs enfants.
Oui, les parents, ils sont là, vous voyez, les parents ont dit que c'est l'éducation commence par la maison. Le parent est éducateur, l'enseignant aussi est éducateur dans son lieu. Je vais ça donner un exemple tout à l'heure par rapport aux jeunes filles qui sortent. Tu vas la voir, elle va sortir de la maison, bien habillée, avec son kaki, son uniforme complet. Elle a dans son sac une autre tenue qu'elle va, quand elle va se cacher quelque part là, c'est pour aller changer ça. Et pour rentrer également, elle va se cacher pour remettre le même habit, alors qu'elle a fait l'école missionnaire. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose par rapport à ce civisme. Et c'est ça, en cela que j'apprécie le ministre Kokourko qui a dit qu'il faudrait que les enfants apprennent à chanter même l'hymne national. Ils ne le connaissent pas. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'enfants connaissent l'hymne national. Et là, quand on a dit obligation est faite de mettre sur les cahiers, les fournitures scolaires, les cahiers, les blèmes de l'État, l'hymne national, et puis l'hymne national, le drapeau togolais, la devise du Togo, tout ça là. Pour que les enfants, quand ils prennent le cahier, ils savent que c'est ça. Quand ils prennent le cahier, ils savent que le drapeau togolais, c'est comme ça. Et la devise Togo, c'est ça. Mais s'il n'y a pas ça, je pense qu'on est en train d'aller à la dérive parce que les enfants aujourd'hui, quand ils sont concentrés sur leur portable, parce que avant, pour aller dans les salles de classe, on est aligné, on fait la montée des couleurs et on chante l'hymne national sous le mât. Je sais pas, et c'est tous les jours. Oui. Cette fois-ci, il n'y a plus ça.
D'accord.
Et ce qui fait que les enfants ne maîtrisent plus même l'hymne national. Et on a dit demain les trois couplets sur les cahiers. Et c'est une obligation pour que les enfants et l'enseignant ou bien le directeur de l'enseignement qui est dans son établissement, lorsque l'enfant vient, il faut vérifier si les fournitures-là
contiennent les empreintes du pays.
D'accord. Ok. Sylvestre, nous allons parler d'un autre sujet et c'est
non,
surtout par
rapport
à. Oui, mais oui, mais on va y aller. On va y aller puisqu'il nous reste pratiquement quelques 5 minutes pour clôturer ce débat. On va revenir sur le sujet. Sylvestre, c'est moi qui modère le débat. Voilà. On va revenir sur le sujet. Alors, il y a le journal La Dépêche, justement, le journal La Dépêche qui écrit à la une. Ce matin, fort à Oyo, Kigali, Paris, Toulon, Bédine, et ces voyages présidentiels qui coûtent cher aux Togolais. Et Sylvestre, vous revenez également sur un sujet ainsi, vous écrivez, superficie 56 600 km², 35 ministres, 39 préfets, 113 députés, 179 conseillers régionaux, 5 gouverneurs, dont un en attente. Et vous écrivez aussi sénateur, vous mettez un point d'interrogation et vous dites, vous écrivez processus en cours et vous écrivez bienvenue au Togo, l'univers budgétivore.
Oui, si vous voulez, je vais ajouter 117 maires. J'ai remis donc le maître à la une, 117 maires.
Ça, parce...
Il n'a pas dit. Il n'y a pas ça. Donc, 117 maires. Dans la prochaine parution, on doit mettre 117 maires. Vous voyez, c'est un peu le PC. C'est vrai qu'on le dit très souvent entre deux discussions et tout ça, mais je voulais ce matin un peu formaliser les choses pour que nous puissions toucher du doigt la réalité. Hein? Lorsque vous voyez un peu, je l'ai fait exprès en mettant la superficie du Togo qui est de 56 600 km². Et comparer, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais lorsque vous prenez notre voisin de l'Est, par exemple le Bénin, qui a une superficie de 114 763, presque le double du... c'est-à-dire deux fois le Togo fait le Bénin, presque. Et lorsque vous prenez, ils ont 23 ministres, ils ont 77 maires et 109 députés. Mais avec une population près de 12 millions donc, de population. Comparé donc aux nôtres, et les nôtres qui sont même au-delà de ce que nous voyons donc de l'autre côté, je me dis qu'il y a véritablement problème. C'est-à-dire que le personnel politique est trop pour la taille. C'est vrai que je ne veux pas dire que le Togo c'est un petit pays, c'est une grande nation. Mais comparativement à la taille, et voyez ce qui se tourne autour de nous, vous prenez même les chiffres de la Côte d'Ivoire et tout ça, vous verrez que c'est trop. Vous voyez, j'ai fouillé un peu du côté donc du Ghana. Ils ont considérablement réduit, autant déjà en 2020 avec la récession et tout ça, la crise, ils ont réduit considérablement donc de plus de 40% l'effectif donc des ministres. Voyez-vous. Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse arriver à quelque chose de pareil ici au Togo. Surtout le personnel politique est trop. Et puis. L'autre chose que j'ai souligné également donc dans le papier que j'ai pas mis peut-être en exergue, c'est au niveau des infrastructures. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'infrastructures. Mais on a beaucoup, si je prends peut-être le cas donc des ministères, il y a certains ministères qui sont encore en location. On n'a pas d'infrastructures. Vous voyez? Et au-delà, j'ai cité un peu les commissariats. Il y a beaucoup de commissariats qui sont en location. Il y a beaucoup de brigades de gendarmerie qui sont en location. Tout cela, imaginez un peu ce que ça nous coûte. Le moins, ne serait-ce que pour le loyer. Or, il y a des édifices publics qui sont en abandon. Nous avons parlé de cela il y a 3 semaines, qui sont en abandon, qu'on peut réhabiliter et affecter sur leurs services publics. Donc, on n'a pas assez d'infrastructures, mais on a plus donc de personnel politique, si bien que parfois on est obligé d'aller louer pour les héberger et que ça devient peut-être leur administration. Donc, je crois qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Tout ça, là, vous le prenez, c'est budgétivore. C'est vrai, je n'ai pas cité le Sénat, puisque aujourd'hui, on ne connaît pas pratiquement le nombre de sénateurs que nous aurons, même s'il faut admettre que les préfectures deviennent des circonscriptions électorales. Peut-être on sera autour de, je ne sais pas, au moins 40 ou au-delà, avec leur vice-gouverneur. On a les gouverneurs, bientôt on aura les vice-gouverneurs et tout ça. J'ai parlé de 117 maires, sans mentionner leurs adjoints. Vous voyez un peu ce qu'on dépense, ne serait-ce que pour le salaire du personnel politique. Voilà, donc...
Vous pensez que c'est trop.
C'est trop, c'est budgétique.
Oui,
il faut
vite. Non, je crois que c'était important de souligner cet aspect. Moi, depuis longtemps, c'est vrai, je voyais des trucs comme ça, mais avec l'article du confrère, je vois à peu près ce que cela peut coûter
à l'État
et par ricochet aux contribuables, puisque au-delà de tout, ce sont nos impôts. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. il y a une réflexion et les dirigeants qui nous suivent doivent peut-être y penser et peut-être à l'avenir de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire.
Mais est-ce
et
que ça, c'est pas la décentralisation qui nous amène aussi là?
Justement, c'est pourquoi je dis, mais la décentralisation ne veut pas dire qu'il faut tout embrasser. Il faudrait rester et réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la cagnotte, par rapport à nos revenus, à nos recettes fiscales. C'est important. Je pense que il faudrait qu'une réflexion soit faite là-dessus pour que les années à venir voir s'il n'y a pas lieu de diminuer considérablement ces dépenses pour pouvoir permettre d'injecter cet argent dans d'autres secteurs. C'est important, le confrère a souligné un problème très 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 important. Je pense que il ne faudrait pas que les dirigeants puissent négliger s'il y a possibilité de commencer les réflexions dès maintenant et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'avenir pour diminuer de ce genre de dépenses. Franchement, il y a des choses qu'on peut cumuler là-bas,
oui,
que ce soit au niveau des ministères, on peut les cumuler. Il y a également au niveau de la répartition des circonscriptions également qu'on peut revoir dans ce sens. Donc moi je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus.
D'accord.
C'est très important.
Ok. Alors, est-ce que ce ne sont pas des compétences qui sont à l'actif du développement du pays?
Oui, c'est les compétences. On le sait, mais le problème posé par la manchette, je pense qu'il faut y penser beaucoup. Vous savez, si on crée des institutions qui manquent des infrastructures où il faut les loger, ça aussi, il y a des problèmes. Est-ce qu'il faut encore aller chercher à louer pour les mettre alors que c'est des nouvelles institutions qu'on a créées qui n'ont pas de choses. Dans l'article, c'est cité beaucoup de choses là-bas. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire supporter tout ça là par le contribuable togolais qui déjà tire le diable par la queue. Vous savez, les impôts que les Togolais paient, on ne sait pas comment ils se déroulent pour le payer. Mais il faut qu'on utilise ça de façon à ce que ça ne pèse pas beaucoup sur lui. Parce que le nombre tellement des institutions, vous savez, bon, je ne sais pas pourquoi, même depuis 1992, dans la Constitution, on n'a pas songé à revoir l'article de sénateur également. Parce qu'on dit qu'il y aura le Sénat. Et de toutes les choses, depuis les modifications qu'on a connues jusqu'à avoir la nouvelle Constitution, on n'a jamais touché cet article concernant le sénateur, le problème du sénateur.
Est-ce que c'est fait sciemment?
Non, c'est pas fait. Les gens n'ont pas regardé de ce côté-là. Et maintenant, on va encore les mettre en place. On va calculer. Il y a les conseillers régionaux aussi qui sont là à payer. Il y a les conseillers municipaux, certains qui vont prendre leur per diem lors des réunions, mais le premier et le second responsables vont prendre seront payés. Il y a les 117 députés. Il y a les ministres également. Bon, c'est vrai que depuis un temps, le nombre des ministres, c'est entre 30 et 33, 35, comme ça, bon. Je ne sais pas si les compétences sont là, on les met en place. Moi, pour ce gouvernement, je pense qu'on allait faire des tests, puisque c'est un gouvernement de 9 mois, un gouvernement de mission également, qui est là pour amener, moi je pense à la transition pour aller vers une nouvelle république. On pouvait faire de telle sorte qu'au moins des choses ne soient pas plus lourdes pour le pays.
D'accord, ok. Merci beaucoup, cher confrère, puisque nous allons arrêter le débat ici, par rapport surtout au temps. Et nous allons donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et c'est sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Koffi.
Oui, Monsieur Koffi, mais ça fait longtemps.
Ben,
comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord, Dieu merci. Allez-y.
Oui. Je dirais d'emblée que le ministre n'est pas bien placé pour pointer du doigt la démission des parents. Pourquoi je le dis ainsi? Ça fait des années, quelques années plutôt, qu'ils avaient démoli quelques établissements ici, sur l'étendue du territoire. Et jusqu'à ce jour, ces bâtiments ou ces établissements ne sont pas rénovés. Ça, c'est le premier manquement. Je ne veux pas être ministre. Il parle de manquement des parents. Les parents ont des difficultés à joindre les deux bouts. Lui, je suis sûr que, en tant que ministre, il reçoit des faveurs pour ses enfants.
Monsieur Kofi,
je donne l'exemple de la France, par exemple.
Oui, monsieur Kofi.
Oui.
Oui, mais quand vous parlez des parents qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, après tout, c'est les enfants aussi. Et ils ont l'obligation quand même d'éduquer leurs enfants.
Quand un enfant, monsieur le journaliste,
oui, mais monsieur Kofi,
va à l'école,
oui,
hein, fait des études, c'est pas pour les parents, hein. C'est pour l'État.
Ah
pour
bon?
Savoir, c'est l'investissement de l'État. Déjà même, je vous donne l'exemple de la France, par exemple. L'ARS, allocation de rentrée scolaire en France en 2024, pour les parents démunis, ça fait 455 euros. Disons, j'arrondis à 300 000 francs, par exemple. C'est ici. Les gens se débrouillent. Et ce n'est pas à lui d'accuser les parents. Déjà, le ministre doit jouer son rôle de ministre. Et tout suivra. Merci.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Kofi, pour votre point de vue dans cette émission Club de la Presse, 90 86 35 35. Allô?
Et allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Oui, votre nom c'est
Patrick.
Ah, Patrick.
Ah oui, monsieur Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ah, par sa grâce, ça va bien.
Dieu merci.
D'accord, je salue les autres journalistes qui sont là-bas, quoi.
D'accord.
Alors, moi, je peux quand même dire que je vois l'éducation togolaise sous un autre angle. Hein.
Mm.
Parce que vous et moi, nous, on a été à l'école d'hier. Et les réalités ne sont plus les mêmes présentement. C'est bien, moi, j'ai eu apprécié le ministre quand, par exemple, il a instauré les congés, comment on appelait ça,
les congés de détente.
Oui. Voilà, les congés de détente. C'est une rénovation et c'est très bon. Mais le système éducatif même là, on ne peut pas rénover ce système là. Par exemple, le cours primaire, on peut s'en passer, il n'y a pas de problème. À partir du CG et lycée, mais vous et nous, comme je le disais, à la vieille école, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une pâte de grenouille peut nous servir dans la vie? Qu'est-ce que un escargot peut nous servir dans la vie présentement? Au lycée, par exemple, au niveau de la littérature. Mais quel adage peut résoudre un problème dans la vie actuelle? Par contre, je sais que si je prends 100 francs et que je m'en vais au marché, j'achète 50 francs, on me doit un récap de 50 francs, on m'a appelé à l'école. Ça, au moins, ça m'a servi. Donc, au moins, l'entrepreneuriat, dans les après-midi, comme on le fait dans le système anglophone, doit être à la page dans les pays francophones et au Togo plus précisément. Il ne s'agit plus d'étudier. Et d'ailleurs, même l'année scolaire, c'est trop même. Ce que nous vivons présentement là, l'année scolaire doit être réduite. C'est pas normal, on ne peut plus fréquenter durant 9 mois. Ce n'est pas une grossesse. Je suis désolé. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Ce n'est pas une grossesse. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado. Comment
oui,
vous allez?
Oui, lui-même. Je voulais parler à propos des interdits des marchés, là.
Mm.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi l'État a pris tous les grands marchés, ne veut pas laisser ça aux maires, parce que là, il y a de l'argent. Mais pourquoi l'État ne veut pas transférer de tous ces marchés, là? Mais combien de fois on va parler d'incendie? Vous voyez, c'est pas sérieux, les gens ne veulent rien faire. On les a nommés, ils veulent rien faire. Ramasser l'argent, après ça, et ils bouffent. Et on ne fait pas le compte, c'est normal ça. Merci, bonne journée.
Bonne journée à toi aussi, M. Gado, pour votre point de vue sur cette question lors des incendies, des marchés.
Allô, monsieur, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
C'est Monsieur Comblin.
C'est Monsieur Comblin.
Oui.
Monsieur Comblin, votre radio à côté de vous, si vous pouvez diminuer son volume, ce serait bien. Voilà, allez-y maintenant.
Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Mm.
C'est qu'on a dit que par le décret de 2007, On dit pour finir le cursus scolaire jusqu'en terminale, il faut 13 ans. Or, on a un enfant, on nous montre ça sur les réseaux sociaux, il a eu son bac à 12 ans. Comment est-ce que c'est possible? Allô?
Oui, oui, je vous écoute, monsieur Comblant.
Comment est-ce que c'est possible? Or, moi, j'ai un enfant. Elle vient du Ghana. Parce que là-bas, normalement, elle était en classe de CM2. Elle est venue ici, on l'a mis en classe de CE2. Mais lorsqu'on l'a mis en classe de CE2, elle était première de la classe. Elle est passée en classe de CM1. CM1 aussi, elle était première. Donc, moi, on lui a sauté la classe, on l'a mis en sixième. Elle était première. Cinquième première. Quatrième première. Troisième première. Et on nous dit, on rejette son dossier parce qu'on a dit qu'elle a réussi le CP2 en classe de sixième. Malgré qu'elle soit première. Ça veut dire quoi ça? Donc, il n'y a plus d'excellence au Togo. Et cet enfant-là qui a eu son bac à 12 ans, comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que nous vivons sous la même loi au Togo?
D'accord.
Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut m'expliquer ça?
Ok. Merci beaucoup pour cette interpellation. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Oui, je dis bonjour à Sass, là où il est.
Oui, Sass vous écoute actuellement et reçoit aussi votre salutation.
Oui. Carlos et tout ça. Bon, et à vous aussi là-bas.
D'accord, merci beaucoup. Voilà.
Notre grand vient de passer pour parler de son enfant, premier, et puis on lui fait ça. Ah oui, c'est la non-affirmance qui fait ça, que tout le monde est devenu, les gens sont devenus des dictateurs. Tout le monde piétine les gens et c'est comme ça. Monsieur Koukouroko est venu, il a cramé combien d'écoles, 200 ou 300, je ne sais même pas. Est-ce que ça a été construit? Tout ça là, non, il faut qu'on arrête ça. Nous, on n'est pas leurs esclaves, les dirigeants là. S'ils refusent d'alterner, nous ne sommes pas leurs esclaves. Pour qu'ils nous gouvernent comme un détail, à où? On a dit 5 ans, hein? Ils sont là depuis, ils ont fait 6 décennies, c'est pas normal. Il nous piétine, il nous humilie et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez parlé de la frigidité.
C'est votre droit, madame.
Frigidité pour les femmes, c'est bon, le stress, les soucis, on n'est pas contente et tout le reste, quoi. Bon, les incendies. Et puis, je vais dire à Gabriel qu'il m'avait promis que moi, je vais acheter la presse à 500 balles. Et il ne fait rien, je vais l'appeler.
D'accord, il faut l'appeler, c'est l'essentiel.
Et pour les incendies.
Oui, oui.
Tout ça là, Dieu n'est plus au Togo.
Ah
Dieu
bon?
N'est plus là. Tout
il est maintenant où?
Dieu est ailleurs. Il n'est même plus en Afrique.
Ah bon?
Parce que tout ce qu'on vit en Afrique, le désordre, les gens braquent la République, nos républiques ne veulent pas s'en démettre, et ils nous piétinent, ils nous font... Non! Dieu n'est plus là. Dieu est mécontent. Même si c'est des gens qui brûlent, et Dieu n'est plus là, quoi. Les gens n'ont qu'à passer la main. Hein? Cinquième République, tout ça là, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Qui sait là où se trouve Dieu maintenant? 90, 86, 35, 91, 36, 33, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Ouais, bonjour, mon frère.
Oui, votre nom c'est?
Monsieur Angelo, depuis Legbacito.
Ah, monsieur Angelo, depuis Legbacito.
Ah, ouais.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci beaucoup. Je reviens un peu sur le cas des cahiers avec leur histoire de drapeau. Et nous qui avons déjà fait le stock des cahiers depuis l'année passée, puisque à chaque année, il a flambé. Bon, maintenant, les enfants ne vont pas utiliser ça ou bien comment?
Oui, monsieur Angelo, allez-y.
Ouais, ça c'est le premier point. Et je reviens sur aussi la situation du Togo avec notre population qui est 8 millions. avec une superficie de 600, un truc comme ça. Avec le nombre de députés, nous allons où? L'histoire de gouverneur, on va où? Le nombre de ministres, nous allons avoir... C'est de n'importe quoi. Et puis, c'est ça, présentement, pour payer les, toutes ces personnes-là, il faut créer des trucs avec, bon, pour appauvrir encore le pauvre Togolais. Voyez-vous, au niveau de, des péages, on dit motopère, péage. L'argent, là, ça va où? Quand la route va vers Côte d'Ivoire en allant, va voir l'état des péages. Finalement, le Togolais a marre. Nous souffrons trop.
D'accord. Ok, merci beaucoup Angelo pour votre intervention. Je pense que Monsieur Angelo, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi. Chers confrères, nous revenons en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Tsamoré, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Oui, j'ai écouté tous les intervenants et puis d'ailleurs merci à eux pour la contribution qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Moi, je voudrais aborder le sujet concernant l'école, toujours l'école, hein, concernant le premier auditeur. Je crois que c'est Kofi qui estimait que le ministre doit jouer son rôle et que l'éducation dont nous avons parlé ici ne devrait pas incomber les parents. Je dis que je pense que, en tout cas à mon avis, je ne pense pas que ça doit être comme ça. Au-delà de tout, nous avons une responsabilité.
En tant que parents.
En tant que parents, on a une responsabilité. Sylvain, ça dit quelque chose qui est très intéressant. Comment vous allez débloquer 500 000 300 000, et vous allez revenir les bras croisés, vous n'allez pas suivre votre enfant pour voir si ça produit ce que vous avez investi, ça produit, c'est comme un investissement. Et qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez sans réussite, avec un résultat soit qui n'est pas au rendez-vous, mais ça doit vous faire mal, finalement. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on se rende compte. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse dévier par rapport à nos interventions.
Et dire aussi que c'est les enfants fréquentent pour l'État, est-ce que ce n'est pas...
Non, c'est un faux problème. Je ne sais pas si dans la Constitution ça a été dit. Hein. Non. Il faudrait qu'on fasse extrêmement attention pour ne pas dévier de notre responsabilité. Je suis d'accord sur le fait que l'État a un rôle régalien de faire en sorte que le citoyen vive décemment dans tous les secteurs le plus simple pour avoir accès à l'éducation. Mais je pense qu'au même moment, par rapport à ce que le ministre a fait, il faudrait qu'on puisse se retrouver, que ce soit les parents, que ce soit et le gouvernement, qu'on puisse se retrouver pour travailler ensemble, mettre en place un système qui va permettre de suivre nos enfants pour que l'école puisse aller loin. Tant que l'école... Tant vaut la nation.
Merci.
Donc franchement, si vous permettez, je vais donner ma note.
Oui, rapidement.
Ma note, c'est 8 sur 10. Moi, je vais la donner d'abord aux trois ministres
qui ont fait le déplacement
l'autre fois, hier nuit, et particulièrement le ministre de la Sécurité, en collaboration avec les sapeurs-pompiers qui vraiment ont joué un rôle très important. Je pense que à l'avenir, on ne le souhaite pas. S'il y a de ces genres de cas, que la promptitude, comme ils l'ont fait hier, que ce soit, je leur donne 8 sur 10.
D'accord, merci. Et c'est une autre objective. Alors, et Sylvestre?
Oui, tout à l'heure, nous avons parlé du fait donc de diminuer un peu le personnel politique et tout, et du moins ça, les services qu'on peut du moins ça faire disparaître au profit d'autres personnes. Et le second intervenant revenait en parlant donc des marchés, parle donc de EPAM et tout.
Oui, Patrick.
En fait, en fait EPAM ne gère pas tous les marchés. Il y a certains marchés qui sont donc qui reviennent donc à certaines communes et tout, les mairies et tout. Mais je veux quand même souhaiter que avant la décentralisation, il y avait EPAM qui jouait un rôle important en ce qui concerne les marchés. Aujourd'hui, où nous avons quand même les mairies, les communes, il faudrait qu'on puisse remettre tous ces marchés là aux communes pour les gérer, parce que c'est là où ils peuvent avoir un peu donc de finances pour gérer les feux tricolores, tout ça que nous voyons. Donc, EPAM et ANASAP, normalement, ces deux institutions devaient quand même disparaître au profit donc des mairies. Comme ça, on aura un peu plus donc de finances du côté donc des maires. Maintenant, je reviens également sur le marché là et j'invite à ce qu'on puisse parer au plus pressé pour régler toutes ces dames là. Qu'on ne traîne pas trop sur les enquêtes, permettre à ce qu'ils retrouvent le marché, au moins pour écouler les produits, les denrées périssables là, pour les écouler rapidement, qu'ils ne deviennent pas encore des dettes pour ces dames-là. Et puis bon, j'appelle également le peuple, comme je l'ai dit, à aller au stade le vendredi,
voilà,
pour supporter donc les épervier, parce que
le premier match, les trois points, c'est vendredi.
Tout à fait. Et bon, c'est contre le Niger, le Libéria. Voilà.
Le Libéria. Oui. Bon, ma note, je donne une note de 8 sur 10 à un jeune Burkinabé que j'ai rencontré au niveau donc, du marché de baie. Vous savez ce qu'il fait?
Non.
Il a eu l'idée géniale. Donc, il a installé un petit kiosque là. Et qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez des billets déchirés, des billets limés, c'est-à-dire vous avez un billet de 2000... Des pièces limées, bon, pardon, des pièces que les gens refusent.
Oui.
Lui, il collecte tout ça là.
Il récupère.
Si c'est 200 francs, il collecte, il vous remet 100 francs. Et lui, il garde la pièce limée. Si c'est 1000 francs, il vous remet 500 francs. Un billet neuf. Et puis, il garde donc du moins le billet déchiré. Et je lui ai posé la question, comment est-ce que lui, il arrive donc à gérer, vous savez ce qu'il fait? Il collecte tout ça là, il prend son cas, il va au Burkina, ils ont des réseaux pour aller les remettre donc à la BCAO. Vous voyez comment?
C'est génial ça.
C'est un jeune là et puis qui se fait du business. Il est bien quoi, vous voyez. Donc ceux qui ont envie, ceux qui ont des billets déchirés, des pièces limées, que les gens ne veulent plus, allez vers ce jeune là. Lui, il prend tout.
Et puis vous remettez la moitié. Ah bah, rapidement.
Oui, mais on a suivi les auditeurs, c'est bien. Ils ont interpellé. Il y a quelqu'un qui a parlé des cahiers. Parce que c'est l'essentiel. Important.
Tout à fait, c'est M. Komla.
Oui, parce qu'il a dit que comment il va utiliser, est-ce que c'est obligé qu'il fasse ce que le ministre a demandé. C'est la note circulaire de 14 août 2023. Donc, et cette note circulaire a l'intention des imprimeurs, des éditeurs, des responsables d'établissements scolaires et de tous les anciens du système éducatif. Il est demandé aux chefs d'établissement et aux enseignants de veiller à ce que les cahiers scolaires utilisés par les élèves respectent les normes établies pour l'impression des symboles de la République. Cela comprend notamment la reposition fidèle des trois copies de l'hymne national, de la devise du Togo.
Comme le temps nous talonne, on va juste résumer, puisque je pense que c'est une obligation que les
enfants utilisent les cahiers, que c'est pour provoquer le patriotisme au niveau des enfants. Donc c'est tout ce que
merci beaucoup, Abbas. Voilà votre note rapidement.
Omano, c'est une note d'encouragement aux éperviers du Togo.
Et c'est combien?
Je les encourage à aller battre, ça doit être... On attend qu'ils gagnent d'abord. Je les encourage.
Ok, c'est un défi.
Tu mets 8 en suspens.
Non, 9 en suspens.
D'accord. Merci, Saka. Merci d'être passé dans cette émission. Taboré, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Sylvestre, je suis vraiment très heureux alors d'animer cette émission avec vous. Et surtout, voyant surtout l'ambiance qui règne alors dans ce studio. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi. On se retrouve demain, jeudi, à partir alors de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.